Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui, depuis la réouverture des restos, n'arrête pas de tester les plus belles tables de Paris. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous. Ouais, alors, je teste les nouvelles tables, hein, mais
ouais, j'ai vu sur
je me suis aussi réinscrit à la salle de sport parce que ça a réouvert cette semaine.
Ouais, après, il faut ton vol au vent au Hitvo et ce qui donnait très envie d'ailleurs. Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler de la restauration française, le Made in France, d'AXA versus les restaurateurs, de l'embouteillage dans les quick commerce, de l'avocat et du durian, deux fruits exotiques avec différents niveaux de notoriété. Et on finit avec le spritz et une recette des gâteaux au ketchup. Bah, on commence tout de suite avec un article sur la restauration et les Made in France. C'était sur le Figaro. Pourquoi les restaurateurs ne jouent pas toujours la carte du 100% français ? Alors Olivier, d'où viennent les produits qu'on mange au resto ?
Alors d'où ils viennent, pas forcément de France, hein, c'est bien là le problème. Et le problème, c'est aussi qu'on répète souvent aux consommateurs français de privilégier le Made in France.
On est d'accord.
Mais par contre, force est de constater que les origines des viandes affichées dans les restaurants, ce sont plus souvent des viandes qui viennent d'Irlande ou d'Allemagne que de France. Et le constat a d'ailleurs été fait par Emmanuel Macron, qui a averti le 18 mai dernier, et a affirmé notamment « Les tables françaises de la restauration servent à plus de 60% de la viande qui n'est pas française. »
60%, c'est énorme,
ouais.
En fait.
Ouais.
C'est énorme.
Alors, on le sait, dans la restauration collective
on a évoqué ça
a
plusieurs
parlé
reprises.
Plusieurs fois que le poulet était souvent importé.
Ouais.
Mais là, on parle quand même des restaurants où on va tous aller dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, c'est un sujet d'actualité. Hein.
Et, mais si on va au restaurant aujourd'hui, Olivier, c'est évidemment pour se faire plaisir, on est bien d'accord. Mais c'est aussi pour soutenir les restaurateurs qui ont beaucoup souffert avec cette crise, on le sait. Mais si eux-mêmes ne soutiennent pas l'agriculture française, ça devient difficile de faire ses choix en tant que consommateur. Parce que moi, je peux choisir... Soit je soutiens l'agriculture française en cuisinant chez moi des produits français, ou je vais au resto soutenir les restaurateurs, mais je vais manger des produits étrangers. C'est un peu un choix cornélien, là.
Et d'après l'article, les premiers fautifs, ce seraient les grossistes. Et en premier lieu, Métro. Alors nous, on n'attaque pas Métro directement.
On cite
l'article. Hein. L'article dit « Les restaurateurs sont orientés par les propositions des fournisseurs et des grossistes.
» Je suis mitigé. Je pense que oui et non. Je pense que les grossistes ont en effet un rôle à jouer. Et évidemment, les principaux grossistes en France, ils ne font pas forcément l'effort du 100% France. Ils vont favoriser plutôt les prix que l'origine, car souvent les produits français sont des meilleures qualités, mais sont quand même plus chers. Par contre, c'est aux restaurateurs d'imposer leur choix. Personne ne l'impose d'acheter un produit. Il doit peut-être demander à son grossiste des produits d'origine France, qui va payer probablement plus cher, mais il va devoir aussi les vendre plus cher. Et pour cela, il va falloir communiquer et expliquer avec transparence à ses clients.
Alors, l'article précise toutefois que Métro, entre guillemets, s'est engagé depuis 2020 dans une démarche de valorisation des produits hexagonaux.
Mmh.
Une autre difficulté, finalement, pour l'approvisionnement en viande française, et pas que, hein, pas que la viande d'ailleurs, mais c'est la saisonnalité des productions.
Bah ouais.
Dans le sens où on a des tomates et des salades qui sont proposées entre avril et octobre et qui sont à peu près à 90% d'origine France.
Mmh.
Et du coup, en dehors de cette période-là, elles sont moins françaises, moins d'origine France, hein, et effectivement. Et l'offre de fruits et légumes, en général, c'est français à 60%.
Or, avril-octobre, quoi. Or,
voilà.
Ouais, ça veut dire qu'en fait, pendant cette partie de l'année, qui est quand même énorme, en fait, entre octobre et avril, les salades et les tomates, elles viennent d'ailleurs, Olivier. Mmh. Et la saisonnalité n'est pas toujours très respectée dans la restauration, on le sait, et c'est bien dommage. Nous sommes en 2021, sincèrement, quel intérêt, par exemple, de la garniture laitue tomate toute l'année qu'on retrouve encore partout, ou au moins dans beaucoup, beaucoup de restaurants en France, quoi.
Alors après, il ne faut pas blâmer que les restaurateurs. C'est aussi probablement une demande des consommateurs qui veulent manger des tomates toute l'année.
Oui, hein, mais ça, il faut que quelqu'un prenne un peu le leadership.
C'est ce que dit aussi la grande distrie. Oui. Et pour Laurent Fréchet, le président de la branche restauration au GNI, afin de limiter les coûts des produits français, selon lui, il suffit de travailler avec des produits de saison. Et pour ça, il ne faut pas démarrer trop tôt. Donc c'est oui. ce qu'il propose. Il explique par exemple que les asperges en début de saison, elles sont à 35 euros le kilo, ce qui est énorme.
Hein, sait, ouais.
Mais que... petit à petit, au fil de la saison, elles vont tomber à 7-8 euros une fois que la saison sera bien lancée.
Oui.
Et donc, selon lui, si on a une carte adaptée, ça ne coûte pas plus cher.
Bah, on est d'accord. Je pense que c'est un peu les nerfs de la guerre quand même. Et nous avons tous compris ça en tant que consommateurs, surtout cette période des confinements. Et si on suit la saison des produits, on arrive à trouver des produits à des prix abordables. En pleine saison, comme tu disais, bah, évidemment, au début de la saison, l'asperge est plus chère. Mais après, ça devient un prix plus acceptable. Et les prix baisse. En plus, l'empreinte carbone des produits de saison, on a évoqué les climatériens l'autre jour, l'empreinte carbone des produits de saison, elle est beaucoup plus faible en fait que les produits hors saison. Ils n'ont pas été poussés dans des serres réchauffées, ni ont traversé la planète en bateau ou avion. Ça demande certes, on est d'accord, plus de travail pour les restaurateurs, un travail d'ajustement permanent de leur carte, un travail de gestion du stock pour éviter les gaspillages. Mais ça en vaut la peine. Les produits de saison sont meilleurs au goût, donc la qualité de la cuisine ne sera que supérieure et les clients seront plus satisfaits, Olivier.
Il y a un patron de restaurant, du restaurant Les Françaises à Paris, qui lui demande même la création d'un label qui dit qu'on a une certaine part de produits français dans nos assiettes. Donc lui, il travaille à 100% en viande française et il milite pour la création d'un tel label.
Encore un label, je ne sais pas si c'est ça la solution. Et en fait, il y a déjà des labels qui existent. Je pense notamment, par exemple, à Écotable, un label des restaurations éco-responsables qui prend notamment en compte dans ses critères l'origine des produits.
Mais par contre, selon ce restaurateur, il y a aussi un problème au niveau des appellations. Hein, il dit par exemple qu'entre une planche de pâte à negra et une planche de jambon de porc noir de Bigorre, les gens ils vont choisir le pâte à negra plutôt que le porc noir de Bigorre.
Oui, mais ça passe aussi, je pense, par la pédagogie. Le pâte à negra est certes un jambon délicieux, mais le porc noir de Bigorre est également une tuerie, Olivier. Il faut expliquer et éduquer les consommateurs pour faire des choix plaisir, mais sans oublier l'impact de notre consommation sur la chaîne des valeurs et la planète.
Alors, je pense qu'il y a un peu de marketing aussi sur le pâte à negra. Peut-être que nous, on voit peut-être moins bien le porc noir de Bigorre
français que le pâte à negra.
Le pâte à negra, tout le monde va dire, c'est le meilleur jambon du monde, etc.
C'est comme les champagnes, d'ailleurs.
Et après, ce qui se passe, là, on parlait des restaurants, mais du côté de la restauration collective, il y a une contrainte budgétaire. Hein. Ça, il ne faut pas la nier non plus. Et cette contrainte, elle oriente fortement la recherche des produits. L'article précise également que pour les clients publics, il n'est pas autorisé de choisir explicitement un produit du de son origine géographique en raison des règles de concurrence élaborées au niveau européen.
Intéressant.
Donc là, il y a un blocage aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que on ne peut pas faire un appel en disant, moi, je veux du local.
Je ne connaissais pas cette loi, mais du coup, je pense qu'il y a aussi du devoir à faire côté gouvernement, en fait. Il faut faire évoluer cette politique pour la restauration collective publique, en fait. Mmh. Olivier, je me disais, on pourrait peut-être demander l'avis d'un expert sur les sujets. Je pense notamment à Victor Mercier avec son restaurant Fief, fait ici en France. Je propose de l'appeler, voir ce qu'il a à dire sur les sujets.
Allez, c'est parti.
Hello.
Oui, Victor, bonjour, c'est Daniel de Business of Bouffe. Je suis avec Olivier aujourd'hui. Tu vas
bien ? Bonjour, Victor.
Oh, hello.
Victor, on parlait de la restauration et du fait qu'en fait 60% de la viande qu'on retrouve au restaurant, elle vient d'ailleurs, elle n'a pas une origine française. Donc d'abord, on voulait savoir, toi avec ton resto, tu proposes 100% des produits français, il n'y a aucune exception ?
Si, il y a des petites exceptions, évidemment. Maintenant, je reste très très transparent là-dessus. Nous, la seule exception qu'on a, c'est nos texturants pour les sorbets et notre gélifiant végétal qui est de la gare. Voilà, parce que on s'est rendu compte quand même que pour améliorer le ressenti client, on va dire, les gens ont besoin de régularité. Et comme encore une fois, nous on va essayer de chercher l'étoile cette année. Il est nécessaire quand on fait une glace qu'elle ne fonde pas au bout d'une seconde si la tension passe, quoi, par exemple.
Bien sûr.
Donc, on a mis ces choses-là en place pour améliorer l'expérience client. En revanche, effectivement, sur tout le reste, y avait eu un précédent podcast avec vous et Fanny d'Écotable où,
tout
en fait, Écotable vient épluche nos factures et atteste bien du fait que nous sommes en 100% Made in France sur tout le reste.
Et du coup, comment tu t'approvisionnes ? Tu t'approvisionnes directement auprès des producteurs, des coopératives, ou alors tu passes par des grossistes ? Et est-ce que ça te coûte plus cher d'acheter français ?
Alors, très honnêtement, oui, ça coûte un peu plus cher, je pense. Mais pas beaucoup plus. Et puis après, il y a quand même il y a une prise de parti, on va dire. C'est-à-dire, est-ce que je préfère que mon argent aille dans les poches d'agriculteurs qui sont français, hein, plutôt qu'ils aillent, je ne sais pas où, en fait, d'une certaine manière. Je les connais pas, les personnes à qui je donne mon argent. Donc ça, moi ça me dérange un peu. Donc, oui, on a des grossistes, notamment Terroir d'Avenir. On a après d'autres petits producteurs. Après, je vais passer en direct. Mais notre principal grossiste, c'est Terroir d'Avenir, parce qu'on sait qu'ils ont vraiment une charte assez qui est en collaboration avec nous, quoi, avec notre vision. Et puis on a après des producteurs avec qui j'entretiens une bonne relation et que je vais appeler directement et qui vont nous envoyer ça directement. Donc on fait un mix des deux en fait, parce que le direct demande beaucoup d'anticipation et parfois un restaurant ça peut être un peu chaotique et il faut pouvoir réagir très vite et c'est là où Terroir d'Avenir va faire son entrée.
Et tu penses que ta démarche, en fait, elle peut s'appliquer partout dans la restauration ou c'est compliqué? En fait, comment tu vois l'industrie au sens large? Comment ça pourrait inspirer d'autres restaurateurs?
En fait, je pense que ça va dépendre du positionnement économique du restaurant. C'est-à-dire, imaginons, je pars un menu à 10 euros, entrée plat dessert, ce qui y a des restaurants qui le font. Très honnêtement, là, ça va être chaud, je pense. En revanche, si on est déjà un joli petit bistrot ou même un restaurant gastronomique, je vois pas où est le problème et je vois pas comment ce n'est pas possible parce que nous on le fait. Donc si on peut le faire, si nous on le fait, tout le monde peut le faire. Ça demande juste un peu plus d'attention d'envie, on va dire. Enfin, je pense que c'est une envie de 100% Made in France. Mmh. C'est un choix politique. Donc voilà, moi, c'est vrai que quand j'ai lu l'article que vous m'avez envoyé, je comprends pas trop. Je comprends pas trop parce que on a quand même une agriculture qui est forte, qui est reconnue comme la première agriculture d'Europe. Donc je comprends pas trop parce que c'est possible. Après, il y a effectivement le grand besoin de rentabilité. C'est sûr que je pense que pour des patrons peut-être un peu plus avides de rentabilité, si mon entrecôte néerlandaise ou allemande elle est 5-6 euros moins chère du kilo que la française, ils vont se poser la question, quoi.
Et justement, quel conseil tu donnerais aux restaurateurs pour améliorer leur sourcing, du coup ?
Je pense pas avoir de conseils à donner en fait. Hein. Nous, au début du restaurant, quand j'ai lancé Fief, je me suis dit non, mais il faut que Fief soit un exemple. Il faut inciter tout le monde à faire comme nous. Maintenant, j'ai un peu changé de fusil d'épaule et je me tais un peu, on va dire, et je laisse faire. Dans le sens où j'essaye de faire en sorte que le travail qu'on fait à Fief parle pour lui-même, quoi. Et ça, c'est voilà. Maintenant, j'ai changé un peu de type de communication. Je me tais. néanmoins, moi, je suis toujours ouvert. Hein, si on me dit, mais d'ailleurs, même sur toutes les petites interviews que j'ai pu faire, je cite mes fournisseurs quasiment. Hein. Donc, il suffit juste de démarcher. Vous tapez Google, vous allez sur Google, vous tapez, je sais pas, si vous cherchez un poissonnier français en 100% français ou un éleveur en 100% français, il n'y a rien de plus facile. Hein. Moi, j'ai fonctionné que comme ça. C'était une petite enquête. Ok, j'ai un besoin. Je tape 2-3 trucs sur Internet. Il y a des numéros qui sortent. Je les appelle. Puis ensuite, on fait des essais et on bosse ensemble s'il le faut. Quoi. C'est pas si compliqué. Hein.
Victor, merci beaucoup. En fait, on va continuer sur la restauration avec un deuxième article. Ça t'est dit de rester avec nous quelques minutes en fait, pour commenter le deuxième article ?
Il n'y a pas de souci.
Super, bah, tout à l'heure. Bah, Olivier, on passe maintenant au sujet qui a fait du buzz depuis quelques jours, en fait. C'est l'annonce choc d'AXA, publiée dans Le Monde. AXA France va débloquer une enveloppe de 300 millions d'euros pour 15 000 restaurateurs. Alors, Olivier, pendant les premiers confinements, on avait suivi de près cette affaire avec notre émission Fait Maison. On rappelle que les assureurs, notamment AXA, ne voulaient pas, ou plutôt disaient que ne pouvaient pas indemniser les restaurateurs pendant la fermeture des restos. Et même les chefs de la Mijan et Stéphane G. qui a fait beaucoup parler de lui avec la pétition qu'il a lancée pour que ça soit déclaré l'état des catastrophes naturelles sanitaires pour déclencher les assurances.
Oui, en effet, Stéphane Jégo a adressé directement sa pétition à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Oui.
Et elle a été beaucoup reprise dans les médias et elle a permis de sensibiliser le grand public à la cause des restaurateurs. Mais finalement, l'amendement de Stéphane Jégo, il a été rapidement débouté devant l'Assemblée nationale puisque la loi ne peut pas être rétroactive. Alors, c'est pas possible de déclarer, en fait, a posteriori, l'état de catastrophe naturelle sanitaire.
Oui, tout à fait. On avait reçu aussi sur notre podcast, suite à Stéphane Jégo, un autre Stéphane Manigold, restaurateur, et qui s'est battu contre AXA en justice. Je vous propose d'écouter un extrait de l'épisode pour mieux comprendre les contextes de l'époque et la position d'AXA.
À l'évidence, notre contrat couvrait cette part d'exploitation. Alors, part d'export. Ouais, c'était évident. Pour nous, il n'y avait pas trop de sujets. Et rapidement, donc, j'ai envoyé plein de messages à de nombreux chefs d'entreprise. Donc, on s'est organisé en amont. Et puis, le combat, il a commencé assez rapidement parce que AXA nous a opposé très vite un refus. Un premier refus de mémoire, c'était au titre de l'aléa. Et rapidement, on s'est mis avec le service juridique de la SATEC. En disant que on ne partage pas le premier avis d'AXA, et donc rapidement on a fusionné nos compétences juridiques entre Maître Sauvagnac et service juridique de la SATEC. Puis ça a commencé un peu à monter en température avec un deuxième refus, puis un troisième et le quatrième. J'ai dit, on va pas jouer à ce jeu-là pendant 10 ans.
Alors c'est vrai que dans cet épisode, finalement, on comprend que Stéphane Manigold, il a bien travaillé son dossier, hein, il a fait un travail d'enquête, il a démontré que les assurances ont les moyens d'indemniser les restaurateurs, et contrairement à ce qu'elle disait, et qu'elle devait indemniser parce que c'est écrit dans les contrats. Donc il a aussi contacté directement le ministre de l'économie Bruno Le Maire pour lui montrer qu'ailleurs dans le monde, les assurances réagissent et que la France, elle devait suivre aussi le mouvement.
Tout à fait, et d'autant plus que finalement le tribunal de Paris a donné raison à Stéphane et la décision a eu un retentissement mondial. Il nous racontait que le New York Times avait repris l'info et qu'en Espagne, en Angleterre et jusqu'en Afrique du Sud, cette décision a servi la cause des restaurateurs. Et hier, on apprend avec surprise une toute nouvelle position d'AXA qui communique sa décision de débloquer une enveloppe de 300 millions d'euros pour 15 000 de ses clients restaurateurs pour éponger les dettes ou une partie des dettes et les pertes dues à la crise sanitaire, soit environ 20 000 euros par restaurateur. Le directeur général d'AXA a déclaré sur Europe 1 « Il est important de mettre derrière nous cette difficulté, le flux judiciaire qu'on a vécu dans les dossiers des restaurateurs ».
Alors, Stéphane Manigold, en fait, c'est l'exemple qui a fait le plus parler, hein, qui a été le plus médiatisé. Mais au total, il y a près de 1500 procédures judiciaires du même genre et 300 millions débloqués. C'est pas une indemnisation, en fait. Hein. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, c'est une transaction. C'est-à-dire que sur les 1500, donc se rajoutent 13 500 restaurateurs qui ont un contrat aussi chez AXA, mais qui n'ont pas attaqué AXA. Et donc, AXA, plutôt que d'aller en justice avec ces potentiels 13 500, il propose une indemnité. Donc c'est vous prenez les 20 000 euros et en échange, vous n'allez pas nous poursuivre en justice. Alors je lisais un article qui disait que pour que les restaurateurs soient indemnisés à hauteur de leur préjudice, il faudrait qu'AXA débloque 900 millions d'euros.
Donc 300. Finalement, ça va dans leur sens de débloquer que 300 millions d'euros. Victor, est-ce que toi, tu étais assuré chez AXA? Tu étais assuré chez qui? Comment tu as vécu cette histoire d'assurance pendant la crise sanitaire?
J'étais assuré chez AXA.
Ah, tombe bien.
Oui, avec beaucoup d'injustice. Néanmoins, après, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, bon, le système des assurances, ça fonctionne comment? Ça fonctionne s'il y a une infime partie des assurés qui ont un problème. Mmh. Quand on pense inondation, il n'y a pas tous les jours des inondations sur Paris, enfin, ou en France. Donc, là, clairement, c'est le système des assurances ne pouvait pas fonctionner quand c'est l'ensemble des assurés qui ont un problème. Mmh. Néanmoins, c'est vrai que Stéphane Manigold a je pense, bien travailler son dossier. Et personnellement, je pensais pas qu'il allait gagner. Donc, bravo à lui hein, là-dessus. Et voilà, oui, donc avec beaucoup d'injustice, parce que clairement, on dit, écoutez, on paye des assurances. Si vous n'êtes pas là en cas de coup dur, comment on fait, quoi? Moi, je demandais pas d'être assuré à hauteur de 100% de mes pertes, parce que clairement, c'est pas possible pour tous les restaurateurs assurés chez AXA. Mais j'aurais voulu juste, effectivement, un soutien moral en quelque sorte. Ouais.
Et du coup, tu as été indemnisé pendant le Covid et la fermeture du restaurant ou pas?
Walou, parce que je crois que j'avais pas pris. Je venais d'ouvrir le restaurant. Tu vois, j'ai pas vraiment de chance, hein, messieurs. Je venais d'ouvrir le restaurant en octobre 2019 et je crois que il y avait une clause, je me souviens plus laquelle, que mon assureur m'avait dit de faire. Je crois que je me souviens plus du nom de la clause. Et c'était encore 1 500 € par mois en supplémentaire ou quelque chose comme ça.
Ah ouais.
Et clairement, il m'a dit non, mais ça n'arrivera jamais en vrai. Et donc je me suis dit j'ai pas de sous, on verra plus tard. Et bien évidemment, ce qui ne devait pas arriver arriva. Et voilà quoi. Donc oui, je l'ai vécu avec un peu d'aigreur, on va dire.
Et tu penses quoi du retournement des situations, du changement des positions d'AXA sur ces dossiers?
Ils arrivent un peu après la guerre. Hein. écoutez, moi, j'attends beaucoup d'argent de l'État encore. Mm. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup, qui n'est toujours pas arrivé. AXA, je suis même pas. À mon avis, je l'aurai pas hein, cette indemnisation non plus. Hein. Je vais voir avec mon assureur, mais parce qu'entre temps, je suis passé. Parce qu'entre temps, il y a aussi une résiliation. Hein. Mm-hmm. T'as envoyé des documents pour résilier tous les contrats avec les restaurateurs. Hein. Donc moi, je suis passé avec un autre assureur entre temps. Donc on va voir ce à quoi j'ai droit et mais il y aura forcément un petit astérisque avec un petit paragraphe de 15 000 lignes en disant vous aurez à droit si sous réserve de
c'est clair.
Excusez-moi du terme mais je travaillais avec quelqu'un, c'était mon consultant en restauration que j'ai ouvert fief et il m'a dit une phrase qui m'a toujours marqué et que je garderai toute ma vie, je pense, tant que je serai restaurateur. Il m'a dit l'argent, tant que tu l'as pas dans la poche, tu l'as dans le cul. Et c'est vrai que, clairement, oui, tant que tu l'as pas dans la poche, voilà. Donc, j'attends de voir. J'attends de voir. Maintenant, je prends toujours tout avec des pincettes parce que la situation actuelle nous a un peu bousculé. Et maintenant, je pense qu'il faut rester très humble et au contraire, jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Okay. Et en l'occurrence, tant que l'argent n'est pas sur le compte, si un jour elle l'est, je ne dirais pas merci à ça. Quoi.
On est d'accord. Victor, merci beaucoup pour ta participation, d'avoir partagé ton expérience avec nous et bon courage pour la reprise.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Sortez et allez au restaurant.
On passe à un autre effet du Covid, Olivier, l'explosion des acteurs proposant de la livraison des courses à domicile.
Ça te manquait, hein, ça.
Ah ouais, j'adore ces sujets. C'était sur LSA, l'embouteillage dans la livraison à domicile express. 23 acteurs à la loupe. Alors Olivier, comme on disait il y a quelques semaines, le quick commerce ou les dark stores, c'est vraiment le phénomène de l'année 2021. Depuis qu'on enregistre It's Business, je vois toutes les semaines des articles sur l'émergence des nouveaux acteurs ou des acteurs qui s'installent en France. C'est dingue.
Oui, d'ailleurs, nos auditeurs, ils en ont peut-être un peu marre aussi. Mais
ouais,
c'est une revue de presse, donc on met les articles qui font l'actualité. Et là, cette fois-ci, c'est un article de LSA qui fait le point sur un peu tout le maquis de ces acteurs du Q-commerce, comme on dit dans le jargon, et qui est finalement de la livraison de courses à domicile,
oui.
Que ce soit en 10 minutes, en 3 heures, en un jour. Mmh. Donc voilà, donc LSA fait vraiment à balayer un peu tout ça. Et l'article, il rappelle un chiffre. En 2020, les courses alimentaires livrées à domicile ont bondi de 45%, donc c'est quand même pas mal. Hein.
C'est énorme.
Et par contre, rapporté au global, la livraison à domicile, elle représentait en février 2021 que 0,5% des achats alimentaires. Donc
oui.
Ça reste assez faible.
Voilà, hein. Au final, ça reste un marché quand même limité. Et comme ils sont plusieurs dizaines, une vingtaine à se partager les marchés, je me demande comment tous ces acteurs vont faire pour survivre en fait.
Oui, et d'ailleurs, comme l'explique notre ami Mathieu Vincent de Digital Food Lab, la rapidité de déploiement de ces startups est étonnante. On remarque en outre qu'elles attirent dès leur création des investisseurs étrangers, ce qui est plutôt rare. Mm-hmm. Par exemple, en moins d'un an d'existence, Gorillaz est devenue une licorne. Alors, une licorne, c'est une société qui vaut plus d'un milliard d'euros.
C'est clair, elle est née, Gorillaz est née en mai 2020. Au bout de 6 mois, ils ont levé 36 millions d'euros, qui est déjà énorme. Et là, il y a très peu, en mars 2021, ils ont levé 244 millions d'euros.
Ah, mais moi, j'ai trouvé mieux.
Ah non.
Récemment, on a la start-up turque Getir qui a levé début juin,
ouais,
550 millions de dollars. Et du coup, elle est valorisée maintenant 7,5 milliards de dollars. C'est énorme.
C'est fou. Mais ouais, ça n'a aucun sens, Olivier. Ça n'a absolument pas de sens.
Et donc, LSA, en fait, dans son article, ils ont segmenté un peu les business models de ces entreprises de livraison de courses en plusieurs types.
Ouais.
Alors, le premier type, c'est celle qui repose sur des dark stores. Donc, on ne va pas refaire le monde en vous expliquant ce que c'est. Donc, c'est des startups comme Gorillaz, Cajou, Fling, Dija, Wheezy, Getir. Donc, les Parisiens ont probablement déjà vu un peu les affiches
partout,
ou des pubs pour ces acteurs-là.
Partout, sur Instagram, dans la rue, voilà, affichage.
Donc, celles-là, elles se battent un peu pour proposer des temps de livraison toujours plus courts. Il y a Gorillaz, Dija et Flink qui, depuis mi-mai à peu près, promettent une livraison en 10 minutes. Cajou, c'est une quinzaine de minutes. Et du coup...
Ça me fait rire. Parce qu'en fait, j'étais en train de regarder BFM TV là, l'autre jour, cette semaine. Il y a un DG d'une de ces startups, franchement, je ne me souviens même pas laquelle, qui était. On lui a posé la question, mais c'est quoi l'innovation de votre startup par rapport à la concurrence? Et lui, il était tout fier. Il disait, nous, on livre en 10 minutes à la place des 15 minutes. Mais Olivier, je m'en fiche, Olivier. Si c'est 10 ou 15, on n'a pas besoin de faire livrer si vite, quoi.
Ouais, c'est assez étonnant. Hein. Moi, j'avoue que alors j'ai pas encore testé aucun de ces services. J'ai testé
Cajou pour voir comment ça marchait. Ouais. Bah, c'est franchement, j'ai testé vraiment pour le fait de tester pour pouvoir en parler sur It's Business. Je vois pas l'intérêt. L'offre, elle est pas qualitative. Et pourquoi j'ai envie de me faire livrer en 15 minutes? Peut-être une fois, j'aurai une urgence. Mais dans le quotidien, on peut bien organiser, faire ses courses correctement comme n'importe quelle personne normale.
Alors peut-être chez les jeunes, faudrait voir chez les nouvelles générations si ça prend vraiment. Mais en tout cas, il y a ces startups-là qui jouent vraiment sur la vitesse de livraison, ouais. Même si effectivement l'assortiment est très réduit et avec des prix qui sont parfois quand même plus importants que dans un supermarché classique. Mmh. Ensuite, on a les startups qui ont un assortiment un peu plus vaste et proposent des temps de livraison supérieurs. Alors après, supérieur, ce n'est pas non plus 15 jours. Hein. Donc c'est le cas de Picnic, de La Belle Vie ou encore de Monmarché.fr. Mmh. Et donc là, du coup, c'est un modèle qui est un peu plus classique, je dirais.
Oui, mais c'est un modèle qui me parle beaucoup plus, là, parce que c'est des startups qui réinventent l'e-commerce alimentaire, mais avec des engagements qui sont déjà beaucoup plus forts que ces startups dont on vient d'évoquer. Il y a un effort pour proposer, soit sur La Belle Vie ou Mon Marché, des produits français avec une rémunération correcte aux producteurs.
Et ensuite, on a celles qui vont proposer de la livraison collaborative. Donc là, c'est par exemple Everly, l'italien Everly qui arrive. Hein, on en a déjà parlé il y a quelques mois. Alors du coup, je ne sais pas s'ils s'en souviennent, hein, nos auditeurs. Ils peuvent aller voir un des épisodes.
Ouais.
Et du coup, en fait, l'idée d'Everly, c'est basé un peu sur une start-up américaine.
Instacart.
Et l'idée, c'est vous envoyer quelqu'un faire vos courses à votre place, hein, grosso modo, et ils vous livrent ensuite chez vous.
C'est les Blablacar des courses.
C'est un peu ça, si on veut. C'est de la livraison collaborative, comme on pourrait l'appeler.
Ouais.
Livraison et picking collaboratif. Wow, il va dans le magasin pour vous.
Oui, et il y a encore les acteurs, on va dire, classiques de la livraison.
Les acteurs classiques de la livraison qui étaient au départ de la livraison de repas de restaurants ou de repas faits dans des dark kitchens.
Mmh.
Hein, donc là, on a Deliveroo, on a Uber Eats et on a Frishti aussi qui a ouvert un supermarché l'an dernier.
Bien sûr qu'il marche plutôt bien.
Et donc, on a parlé il y a quelques semaines aussi, hein,
oui,
qui marche bien.
Le problème, c'est que la concurrence, Olivier, elle est très rude, en fait, entre tous ces acteurs du marché. Et les marchés, je pense, il va finir par se auto-nettoyer. Il y aura beaucoup, beaucoup d'écasses et des dégâts. Et surtout, ce qui m'impressionne, est la quantité d'argent disponible sur les marchés pour les levées de fonds. On a parlé de 200 millions, 500 millions. Il y a des milliards d'euros qui ont été injectés dans ces boîtes-là. Ces startups, et même au-delà de ces segments-là, n'ont jamais levé autant d'argent. Et je me demande si on n'est pas en train de créer une nouvelle bulle qui finira par s'éclater.
Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'argent parce que ça reste un secteur gigantesque, l'alimentaire, qui a été forcément assez peu attaqué pour le moment. Amazon s'y est attaqué aux acteurs traditionnels, mais il reste, ça, c'est un secteur, on parle de milliers, de milliards au niveau global. Hein, donc c'est pour ça qu'à mon avis, l'argent coule à flot pour le moment.
Et aussi parce que à cause du Covid, de la crise sanitaire et de la crise économique, les gouvernements du monde entier ont injecté beaucoup de cash dans l'économie. Ouais, et voilà. Ces cash-là, il n'est pas forcément dans ta poche ni dans ma poche, mais il est dans la poche de ceux qui avaient déjà du cash. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent. Bon, écoute, on continue, c'est It's Business avec un article de Food Navigator sur la consommation d'avocats qui atteint des records aux US. Avocado consumption climbs with plenty of headroom for growth ahead. La consommation d'avocats augmente et la marge des progressions est encore énorme. Olivier, ça sera pas pour demain la fin des avocado toasts.
Non, c'est un article qui a été déniché par Céline Lenné d'Alim Avenir. Mmh. Et en fait, d'après un rapport qui a été sorti par Rabobank il y a quelques semaines, la consommation d'avocats aux États-Unis, elle a atteint des records en début d'année grâce d'une part à la reprise de l'économie, hein, parce que finalement, l'économie a repris plus vite aux États-Unis que chez nous. Hein, ça, on l'a tous vu parce que les vaccins sont arrivés plus vite. Et il y a aussi toujours cette image positive de l'avocat qui est vu comme un super aliment à la mode. Hein.
Mmh, tout à fait. C'est là, je pense, c'est aussi dû aux nouvelles habitudes des consommations des jeunes, très influencées par des effets de mode fortement relayés sur les réseaux sociaux. On voit souvent sur Insta ou sur TikTok plein d'influenceurs qui font la promotion de l'avocat.
Ouais, et finalement, les expéditions mensuelles d'avocats sur le marché américain en janvier de cette année, elles ont enregistré une croissance en volume de 33% par rapport à janvier l'an dernier.
C'est une consommation qui était déjà gigantesque.
Ouais, il faut savoir qu'en janvier, il y a le Super Bowl et concrètement, le jour du Super Bowl, ben, tout le monde va faire du guacamole.
Pourquoi ?
Ils ont une consommation gigantesque le jour du Super Bowl. C'est hallucinant.
Je ne comprends pas le rapport entre le Super Bowl et l'avocat, en fait.
Si, parce que tu le consommes en guacamole. Hein.
D'accord, c'est les nachos, c'est, guacamole. Voilà,
C'est
très bon.
C'est immense. Je crois que le jour... moi, j'ai fait un article avec Céline là-dessus. Et les Américains consomment à peu près 1% de la production mondiale sur ce seul jour-là.
Ah ouais ?
Ouais, ouais. C'est immense. T'imagines pas les quantités. Faut que je te retrouve le chiffre. Et en fait, la consommation d'avocats par habitant aux États-Unis, elle a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de 8% au cours de la dernière décennie. Donc, tous
énorme.
Les ans, ça prend 8%
énorme.
Depuis 10 ans.
Ce qui a peut-être doublé sur 10 ans, quoi.
Voilà. Donc, en 2010, les Américains, ils consommaient environ 4 livres d'avocats par habitant. En 2018, ils étaient déjà à 8,5. Et Rabobank estime que ce chiffre pourrait dépasser les 11 livres par personne d'ici 2026.
Énorme. L'avocat a encore des beaux jours devant lui, mais il faut aussi que les importateurs et industriels commencent à réfléchir à une chaîne des valeurs qui réduit son impact sur la planète, qui donnera aussi une meilleure image du produit, car on sait bien que le commerce d'avocats a des lourdes conséquences écologiques au Mexique, au Pérou, au Chili aussi. C'est une culture qui est très consommatrice d'eau et des ressources de la planète.
En effet, d'autant plus que pour l'année 2021-2022, la mauvaise météo hivernale mexicaine, qui est le plus gros exportateur d'avocats vers les États-Unis, hein,
sûr,
et le plus gros exportateur mondial tout court, ça va affecter la production de fruits et donc ses exportations.
Bon, on va suivre l'avocat, mais c'est pas pour demain qu'on va arrêter de manger ces produits très consommateurs de ressources. On passe à un autre fruit exotique, cette fois-ci un fruit asiatique, le durian, qui a fait l'objet d'un article sur le Financial Times. The durian fruit redeemed, le retour du durian. Alors Olivier, c'est quoi le durian ?
Alors le durian, c'est un fruit qu'on consomme principalement en Asie du Sud hein, et qu'on trouve quasiment d'ailleurs qu'en Asie. Et qui a une assez mauvaise réputation dans les pays occidentaux.
Ouais, mais je te fais une petite correction parce que c'est pas toi, c'est l'article du Financial Times. Ils ont oublié de parler du Brésil parce que ces fruits sont largement présents dans mon pays d'origine sous le nom des jacas. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est ces fruits un peu bizarres ?
En fait, c'est un gros fruit vert en forme de ballon de rugby.
C'est énorme.
C'est originaire à la base de Malaisie, d'Indonésie et de Brunei. Mm-hmm. Et le durian, il est aussi cultivé en Thaïlande ou au Vietnam. Alors, on le surnomme là-bas le roi des fruits.
Bah ouais. Hein,
il peut peser jusqu'à 4 kilos. Et sa particularité, c'est qu'il a des petites pointes. Hein,
oui.
Et d'ailleurs, le nom duri, signifie épine en malais.
Ah, ça, je ne savais pas. Bah, tu sais que ce qui est fou avec ces fruits, c'est que les arbres des durians, elles font quand même quelques mètres d'hauteur. Et souvent, ces fruits font 4 kilos. Et donc, ils tombent par terre, ils s'écrasent. Mais parfois, ils tombent sur la tête des gens aussi. Et au niveau goût, Olivier, ça donne quoi en fait?
Alors, c'est un fruit qui a une saveur assez complexe. Hein. Au 19e siècle, l'explorateur britannique Alfred Russel Wallace, il affirmait qu'il s'agissait du fruit parfait pour, je cite, « la douceur gluante de sa pulpe qui ressemble à une crème riche, semblable à du beurre, fortement aromatisée aux amandes et entremêlée d'odeurs de crème au fromage, de sauce aux oignons, de chéri brun et d'autres incongruités.
» Je ne pourrais pas les décrire si bien que ça. En fait, c'est un savoir qui est un peu déconcertant, on va dire, au début. Mais une fois qu'on passe les caps, les fruits deviennent vraiment de plus en plus appréciables et sa saveur est de plus en plus complexe, en fait. Moi, au Brésil, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais ça reste quand même un fruit très sucré, hein, vraiment très 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 sucré. Moi, je l'adore. En plus, c'est un fruit qui est très utilisé dans la cuisine végane au Brésil, car il permet de créer des plats avec une texture parfois qui peut ressembler à celle de la viande.
Mais en fait, ce qui fait le plus débat à propos du durian, finalement, c'est son odeur.
Oui, ça pue. Hein, on va dire la vérité, ça pue.
Et d'ailleurs, en fait, l'article précise que la façon dont le fruit et son arôme sont présentés en Occident est devenue un sujet de discorde majeure.
Ah ouais?
Ouais, parce qu'il y a un article qui est paru dans le New York Times hein, en 2020 qui va même jusqu'à affirmer qu'il pue la mort.
Pardon, c'est vrai que l'odeur, c'est un petit inconvénient, hein. Il sent très très fort et pas bon. Il est même interdit dans les transports publics de certains pays asiatiques.
Ouais, je confirme, hein, par exemple à Singapour, moi j'ai vu des affiches durian interdit, tu vois le fruit barré.
Mais bon, je pense que l'article de New York Times manque un peu de diplomatie, Olivier, quand même, ça pue pas la mort.
Non, et en fait, surtout, le problème, c'est que du coup, de nombreux Asiatiques, ils voient tout simplement du racisme, clairement. Et pour l'écrivaine gastronomique Anna Sulan Maising, vous pouvez écrire que le durian n'est pas une saveur que vous aimez, comme vous pourriez le faire pour le roquefort, par exemple,
oui.
Et parler de la complexité de sa saveur, mais c'est rarement fait comme ça, c'est plus souvent une excuse pour écrire des choses subtilement racistes. Et elle précise d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles la diaspora d'Asie du Sud-Est s'accroche à ce fruit, car il y a un sentiment de réappropriation là-bas.
D'ailleurs, en fait, ça pourrait être une très bonne idée, d'accord, Olivier, en cuisine, durian roquefort. Bah, si nos auditeurs veulent essayer, on sera ravis d'avoir leur retour. Olivier, je sais qu'il est tôt, mais j'espère que tu as soif parce qu'on va prendre l'apéro. On finit cette revue de presse avec un article sur le spritz. C'était sur l'opinion. La guerre du spritz aura-t-elle lieu ? Olivier, avec les retours en terrasse, les spritz et des retours dans nos verres.
Oui, c'est un article consacré à cet apéritif italien un peu orange hein, qu'on trouve désormais quasiment dans tous les bars de France et d'ailleurs, et à des prix qui sont parfois exorbitants, 10€, 13€. Hein. Donc c'est aussi... Là, moi, je me suis baladé, j'en ai vu plein sur les tables cette
plus,
semaine.
Ils attirent l'œil parce qu'ils sont oranges, quoi. Ce qui est fou, c'est que ces coquitelles, qui étaient très peu connues en fait il y a 10 ans, Olivier, en France, on ne les consommait pas, les spritz, même en Italie. Aujourd'hui, on les retrouve partout dans le monde et les gens se préparent même chez eux. Il faut dire que c'est un cocktail quand même très simple à faire, qui nécessite peu d'ingrédients.
Oui, l'auteur de l'article, Sébastien Bis, nous explique qu'en fait, tout a commencé au début des années 2000. Lorsque l'entreprise italienne Campari fait l'acquisition de Barbero, qui possède, d'accord, entre autres, la marque Aperol.
Aperol.
Et comme il l'explique, pour Campari, l'objectif était aussi et surtout de promouvoir un cocktail mixant ses liqueurs avec de l'eau gazeuse et du vin effervescent.
Oui, et la naissance du spritz remonte au début du XXe siècle. Hein. Il était seulement consommé en Vénétie, la région des Venises, au nord de l'Italie. Et c'est grâce à Campari que les cocktails s'est développé dans toute l'Italie et puis à l'international.
Oui, et puis il faut dire que pour accroître la notoriété du cocktail, Campari va mettre les moyens. Hein. Il y a des opérations de séduction sur les places des grandes villes italiennes, des publicités spectaculaires à grand renfort de stars internationales du cinéma, création de festivals de musique de très haut niveau entièrement labellisés.
Oui.
Donc ils ont vraiment mis le paquet pour accroître la notoriété du spritz.
Et plein des goodies. Moi, à la maison, je dois avoir au moins 3 verres brindés à Aperol, quoi. Campari a par exemple fait appel à des stars hollywoodiennes, hein, Salma Hayek, Jessica Alba, Eva Green et Lady Gaga pour promouvoir son e-spritz. L'entreprise italienne n'hésite pas à sponsoriser des événements sportifs aussi ou des émissions de télé-réalité pour gagner encore en notoriété.
Oui, et du coup, en fait, comme il explique Sébastien Abyss, hein, il y a plusieurs variantes du Spritz. Alors moi, je connaissais celle de l'Aperol, mais il y a aussi du Campari Spritz, du Select Spritz.
Tout à fait.
Et c'est vraiment l'Aperol Spritz qui est la locomotive des ventes. Hein. Il a un goût plus léger, il est plus accessible, a priori.
Il est plus sucré, en fait. Moi, j'aime bien les Campari Spritz, mais qui a un côté amer qui ne plaît pas à tout le monde. Et l'Aperol Spritz, qui est désormais les plus diffusés en Italie, mais aussi dans tout le monde, il cartonne en Europe, mais aux US également, au Brésil, en Amérique latine, et il commence même à devenir très populaire en Asie également. C'est un vrai phénomène dans la consommation d'alcool.
Et là où ils ont été assez forts, je trouve, c'est que dans le Spritz, l'Aperol aujourd'hui, il est désormais indissociable du Prosecco.
On est d'accord.
Donc comme l'explique Sébastien Abyss, le Prosecco, c'était jusqu'au succès du Spritz, hein, plutôt méconnu dans les milieux professionnels et de sa zone géographique en Vénétie. Et désormais, il fait même de l'ombre au champagne. Le fameux champagne, bah, il est aussi un peu moins cher. Et en réponse, LVMH vient récemment de lancer ce qu'il appelle le Chandon Garden Spritz.
Ouais, bah, c'est énorme cette stratégie d'LVMH qui est un acteur très associé au champagne, mais qui a aussi Chandon, qui a sa division vin pétillant qui existe, qui est présent en Argentine, en Californie, au Brésil, en Australie, en Chine même. Donc à partir de ces vins, il propose un spritz, mais qui est déjà mixé. Donc, on va acheter une bouteille d'un cocktail qui est déjà prêt. Franchement, je ne suis pas assez d'accord avec cette stratégie de mes anciens collègues d'LVMH. Je pense que ça perd tout son charme, en fait. Ce qui est intéressant avec les spritz, même si on fait avec du pétillant français ou d'ailleurs, c'est de les faire soi-même. Ça prend 3 minutes et c'est ça qui fait partie aussi du succès du cocktail, quoi. On finit avec une recette des gâteaux bien appétissante à tester ce week-end. The Great Canadian Ketchup Cake. C'est quoi cette histoire des gâteaux ketchup, Olivier ?
Oui, c'est un tweet que j'ai repéré sur Twitter. C'est Owen Williams, @OW.
Ouais.
I'm sorry, the great Canadian what? Et en fait, il a retourné une bouteille de ketchup Heinz, hein,
Heinz ouais.
pour pas la citer. Et en fait, effectivement, dessus, on voit une recette de gâteau canadien au ketchup. Donc, si nos
Est-ce
éditeurs
que tu peux nous
ont envie d'essayer.
La photo qu'on voit en fait.
Bah,
c'est une espèce
la photo, c'est un bon gâteau à l'américaine, hein, avec une espèce c'est un gâteau rouge avec un peu de crème blanche. Mais allez voir sur la newsletter, vous verrez bien un peu la photo. Mais en tout cas, ça donne pas forcément envie de faire un petit gâteau.
Ça donne zéro envie. Bah Olivier, merci beaucoup pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de It's Business.
Salut Daniel, au revoir à tous.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt.